Europe 1. Europe 1, on de la traconte.
Cette histoire qui commence en février 1969 dans la région de Bordeaux, au début c'est l'histoire assez banale, quoique rare à l'époque, d'un couple de divorcés, André Fourquet et Michel Berton, et de leurs trois enfants, Chantal 14 ans, Aline 13 ans et Francis 11 ans. La mère habite à Bordeaux, rue Bineau, et c'est elle qui a la garde des gamins. Et le père habite une ferme, la ferme du Saillé, dans un gros bourg de Gironde, sur la route d'Arcachon, Sestas. Et il a le droit de prendre les enfants un week-end sur deux, du samedi 19h au dimanche 19h. 24 heures pour voir ses gosses, un week-end sur deux. C'est pas beaucoup. Le 1er février 1969, André vient chercher ses trois enfants à Bordeaux. Et il les prend en bas de l'immeuble, hein. Pas question de monter, il ne veut pas voir la mère, à sa nom depuis qu'elle a obtenu la garde, c'est la guerre. André sort de Bordeaux au volant de sa Dauphine par le sud et il arrive sur la longue ligne droite bordée de pins, le début de la forêt landaise, la route de Sestas. C'est pas loin, 20 kilomètres à peine. Et c'est là qu'il se tourne vers ses enfants et leur dit cette phrase terrible. C'est la dernière fois que vous voyez la Rubineau. Hein. Nous, on va tous mourir au Saillé. Il n'a aucune intention de les ramener chez leur mère dimanche soir. Aucune. Il a un tout autre projet. Un projet complètement fou. Et les voilà donc qui arrivent tous les quatre dans la cour de la ferme du Saillé, au milieu des pins. C'est une maison d'un étage, aux murs blanchis à la chaux, avec des volets rouges, un puits en pierre et un potager. Et au moment où ils descendent de la voiture, le père dit à sa fille aînée « Chantal, tu seras mon lieutenant !»« Et nous ?» disent les deux plus jeunes qui n'ont pas compris la gravité de la situation. « Eh bien vous, vous monterez la garde !» Et ensuite, le samedi soir et le dimanche toute la journée, il ne se passe rien de particulier. Jusqu'au dimanche soir, aux alentours de minuit, quand la petite Chantal, l'aînée, se lève et dit à son père « J'ai envie d'aller faire pipi !» Au Saillé, les toilettes sont dans la cour. Alors la petite sort, dans le noir, sous la pluie. C'était une ruse. À peine dehors, Chantal se met à courir. Elle s'enfonce dans les bois. Elle a décidé d'aller prévenir sa mère du drame qui se prépare. À pied, en pleine nuit. À 6h du matin, elle frappe à la porte de sa mère.
« Maman ! Maman ! Papa nous a enfermés. Il a son fusil. » Aline et Francis sont avec lui. Il veut les tuer.
Et la mère, évidemment, prévient immédiatement les gendarmes de Sestas, qui sont à peine surpris. Et de un, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Et de deux, le loustic leur a envoyé une lettre il y a quelques semaines. Il a été très clair sur ses intentions. « J'ai écrit à ma femme pour qu'elle vienne payer sa peau, j'ai décidé de la faire venir à la maison pour qu'elle crève, et elle crèvera. Ou ce sont les enfants qui paieront. Je vous préviens, je tire sur tout ce que je vois, sans avertir. » Et ils le connaissent, les gendarmes, ce grand irascible de Fourquet. C'est la troisième fois qu'il leur fait le coup de l'ex-mari courroucé. Et les deux premières fois, il s'est calmé. Mais bon, puisqu'il faut y aller, faut y aller. Les gendarmes se rendent donc à la ferme du Saillé avec le maire et avec le curé comme les fois précédentes. Sauf que cette fois-ci, quand ils arrivent dans la cour, Fourquet s'est barricadé. Il a taillé des meurtrières dans les volets, il a une carabine 22 long rifle à lunettes et il gueule.
« Que ma femme vienne ! Je rendrai les enfants !»
Et il se met à tirer sur tous ceux qui s'approchent trop près. Des chasseurs qui passent par là, le voisin, le père du boss, qui est pourtant un de ses amis, et même, il tire sur une vache. Heureusement, il ne blesse personne, même pas la vache. Les gendarmes, sans paniquer, décident de prendre position autour de la ferme et d'attendre.
Il y a 8 jours dimanche dernier, il est allé chercher ses enfants, comme il le fait à chaque fois. Alors, il avait prévu son coup, parce que c'est la troisième fois qu'il fait ça. Hein.
Vous semblez le connaître.
On le connaît, oui, malheureusement. Alors, le lundi matin, il avait tout préparé. D'ailleurs, il a fait une vraie fortification de son domicile. Hein. Il a fait des meurtrières un peu partout. Alors, la jeune fille qui a 14 ans, elle a compris qu'il allait recommencer ce qu'il avait déjà fait il y a un an, un peu plus d'un an. Elle est partie. Et elle a donné l'alerte. Elle a dit ce qui se passait. Alors, lui, il a gardé ses deux gosses avec lui, renfermés, n'est-ce pas? Et deux, trois jours après, ce qu'il a tiré sur des automobilistes qui est arrêté sur la route. Alors, c'est là où on a commencé la surveillance, nous.
Comme ça va durer un peu, il est peut-être temps que je vous raconte comment on en est arrivé là. Il faut donc que je vous raconte une histoire de corne-cul, l'histoire d'André et Michel qui se marient en 1954. Lui, assez beau gosse, petit mais sportif, petite moustache, les cheveux noirs, les yeux brillants, conducteur de bulldozer à la société d'asphaltage du Sud-Ouest, 1200 francs par mois, sérieux, sans histoire. Il n'a jamais fait grève, il ne boit pas, il ne sort pas. Comme on dit dans la région, André, c'est un vaillant. Elle, Michel, c'est une jolie brune, piquante. Ils se sont rencontrés dans un bal à Bordeaux le dimanche des Rameaux 1954. Et après, tout est allé très vite. Le mariage, les enfants, la petite famille qui s'installe à la campagne, au Saillé, au milieu des pins. Et puis, quand les enfants commencent à grandir, Michel veut travailler comme garde-malade dans une clinique de Pessac dans la banlieue de Bordeaux. Et on dit, mais en vérité on n'en sait rien, hein, qu'elle commence à fricoter avec les médecins de sa clinique. Un voisin se met à raconter qu'il l'a trouvée dans un bois avec un homme marié, la jupe retroussée. Bref, on commence à dire que Michel, elle a le feu aux fesses, elle tient mieux sur le dos qu'une vache sur les cornes. Et ça, André, ben ça lui plaît pas. Remarquez, on comprend. Il a changé. Il est devenu taciturne, fuyant. Et un jour, Michel arrive à l'épicerie avec des traces bleues autour de son cou. Hier soir, il a voulu m'étrangler. Alors en 1966, Michel demande le divorce. Et le juge confie provisoirement les enfants à une institution religieuse. Et là, le père pète les plombs une première fois. Il enlève les enfants et se barricade avec eux dans sa ferme. Cette fois, le maire et le curé arrivent à le calmer, il relâche les gosses et il se rend. Et il prend 6 mois de prison ferme et le divorce à son tort est prononcé pendant qu'il est en prison. Voilà donc l'histoire de ce grand irascible d'André, qui vient donc une fois de plus de se barricader chez lui avec les gosses. Pendant une semaine, il ne se passe rien. Tous les jours, le maire et le curé viennent parlementer, mais c'est une tête de mule. Il veut sa femme, et puis c'est tout. Pour l'instant, les gendarmes se contentent de patrouilles prudentes, mais les événements vont se précipiter. Ce matin, ça fait 9 jours. Qu'il est enfermé là-dedans avec ses gosses. Et voilà qu'il réclame un docteur.
Ali, il est malade ! Il faut la soigner !
Un médecin ! Il ne faudrait pas qu'il le prenne en otage ! Les gendarmes refusent. Et soudain, aux alentours de midi, une détonation. Le gendarme Caratala, qui était allé se dégourdir les jambes, mais qui était loin, au moins à 150 mètres de la ferme, s'écroule. Un de ses collègues se précipite pour lui porter secours. Deuxième coup de feu, il prend une balle dans la jambe. Et il parvient néanmoins à tirer son collègue à l'abri pour constater que le gendarme Caratala est très grièvement blessé. Il meurt dans l'ambulance qui l'évacue vers l'hôpital de Bordeaux. Et là, ben c'est plus la même histoire. C'est plus l'histoire d'une tête de mule pittoresque qui veut voir sa femme. À partir de maintenant, c'est l'histoire d'un tueur de gendarmes.
À Festa, il pleut et aucun autre bruit que celui des pas heurtant les pierres ne trouble le silence de la forêt. Là-bas, à 200 mètres, dans sa petite maison blanche, derrière les volets percés de meurtrières, André Fourquet, 38 ans, attend le lever du jour en compagnie de ses deux enfants, Aline, 13 ans, Francis, 11 ans, qu'il utilise comme otage depuis 9 jours maintenant.
Hier, le forcené a tué un gendarme qui se trouvait pourtant à 200 mètres de lui. Il l'a tué d'une balle en plein cœur. Le commandant Cardeillac, qui dirige les opérations policières, n'a pas encore confié quelle sera sa tactique pour tenter de se rendre maître de Fourquet. Fourquet qui a menacé de tuer ses enfants avant de se faire justice si l'on s'approchait de son domicile.
Le commandant Cardeillac fait venir de Bordeaux deux half-track, des petits blindés à chenilles et une automitrailleuse. Va-t-il ordonner l'assaut ? Sur le coup de 17h, le commandant fait avancer l'automitrailleuse à 50 mètres de la ferme. Et les gendarmes à l'intérieur larguent sur la maison des grenades lacrymogènes et des fumigènes. Mais c'est juste pour l'impressionner. Il n'y aura pas d'assaut, en tout cas pas ce soir. Le commandant donne juste l'ordre aux blindés de tourner toute la nuit autour de la ferme, de faire du bruit pour l'empêcher de dormir. Le lendemain, Simone, la sœur d'André Fourquet, lui lance un appel à la radio.
Écoute, Dédé, c'est Simone qui te parle. Si tu m'entends, remets Aline, si elle est malade, je vais te la soigner. Le mieux possible, c'est que la maison, elle sera bien. Et puis tout va revenir dans l'ordre. Les gendarmes vont s'en aller autour de la maison et tu seras tranquille après. Fais quelque chose, écoute, pour tout le monde, même pour toi. Avant qu'il arrive peut-être autre chose de plus grave. Parce que tu sais, quand même, si maman était là et papa, hein, fais un effort. Envoie-moi Aline, surtout, si tu veux.
Mais André Fourquet n'entend pas l'appel de sa sœur. Il a cassé son poste de radio. Et comme les gendarmes lui ont coupé l'électricité, il n'a pas non plus la télévision. Du coup, il ne sait pas qu'il a tué un gendarme. Et là, il se passe quelque chose de surréaliste. Un médecin parisien, le docteur Arnaud, déboule à Cestas de son propre chef. Il est ému par la détresse de Fourquet et le sort des enfants, et il se propose comme négociateur. Conciliabule, Fourquet est d'accord pour le laisser entrer. À 4h30, le docteur Arnaud s'avance donc seul, sans armes, sans protection, vers la ferme. Fourquet l'attend carabine au poing sur le pas de sa porte, et il dit à son fils Francis « Fouille-le !» Et le gamin le fouille. Le médecin commence à examiner la petite Aline, qui est soi-disant malade, rien de grave. Le docteur décrète qu'elle a juste besoin de lait. Alors on envoie aussitôt un motard acheter du lait et le commandant vient poser les deux bouteilles devant la porte d'entrée. Et Fourquet lui dit
« Merci mon capitaine !»
L'officier ne s'offusque pas de cette rétrogradation, il est confiant.
J'espère que Fourquet nous confiera ses enfants demain. C'est le commandant Cardeillac qui, ce soir, nous a fait cette déclaration. Pourquoi cette confiance subite du commandant Cardeillac ? Parce que, connaissant bien Fourquet, il sent que flanche la résistance de ce dernier. Les responsables de l'ordre ont joué la carte psychologique. Ils laissent l'assiégé se heurter aux problèmes que rencontre tout assiégé, et comme celui-ci n'est pas seul, comme les enfants qu'il aime risquent de souffrir de cette situation, il réfléchit. Il l'a dit lui-même ce soir aux gendarmes. « Je réfléchis et je vais peut-être vous confier les enfants s'ils sont placés dans une maison où je pourrai les voir facilement. »
Quand la nuit tombe ce mercredi 12 février 1969, tout le monde espère que ça va bien se terminer, mais ça ne va pas bien se terminer. Le lendemain matin, la pluie redouble d'intensité. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques du gendarme Caratala à Bordeaux, en présence du préfet et du patron de la gendarmerie nationale. À Cestas, Fourquet, qui est toujours barricadé avec ses gosses, accepte une nouvelle visite du commandant Cardeillac de la gendarmerie. Il est venu avec un document censé le rassurer.
Je lui ai notifié une décision du juge des enfants et du procureur de la République de Bordeaux. Concernant le placement de ses enfants dans un établissement spécialisé. Et ça lui a fait, je crois que ça a apporté un élément de détente supplémentaire et que grâce à cet élément, on pourra aller vers une solution raisonnable de ce problème, à savoir que je pourrai le livrer à la justice, comme c'est mon devoir de le faire, et que l'on pourra s'occuper de ses enfants. Je lui ai proposé, oui, évidemment, de se rendre avec les enfants. Il va me le faire savoir en début d'après-midi.
De quelle façon ?
Il doit se présenter lui-même avec ses enfants.
Un peu plus tard, le docteur Arnaud, encore lui, s'avance à nouveau vers la ferme, une bouteille de lait à la main. Il ressort au bout d'une heure.
Ce qui importait surtout, c'était de le convaincre qu'en fait, il adore ses enfants, il les adore, et ses enfants ont pour lui une affection profonde. C'est bouleversant de voir dans quelle situation ce père et ses deux gosses se trouvent. Ils adorent leur père, ils n'en ont pas peur du tout. Et quand le père dit, si on cherche à m'arrêter, si on cherche à les envoyer à leur mère, je les détruirai, je me détruirai aussi. Il le dit devant les enfants, et les enfants gardent le sourire.
Le docteur Arnaud révèle autre chose. Fourquet a réparé sa radio. Et maintenant, il sait. Il sait qu'il a tué un gendarme. Et ça n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il sait ce qu'il risque. Il risque la peine de mort. Alors, il ne libère pas les enfants. En fin d'après-midi, le commandant s'avance avec son porte-voix.
Pense à tes enfants ! Tu les aimes pourtant !
Amenez-moi ma femme ! Et vous aurez les enfants ! Elle a séjourné dans la ville, non ? Et elle aime les petits ! Eh bien, elle vient ici ! Et elle ne viendra pas ! Elle s'en fout des enfants !
Rends-toi donc !
N'y comptez pas ! Je veux pas aller en prison ! Maintenant, il y a un mort entre vous et moi ! Bonsoir !
La solution est bloquée.
Ce soir, la déception est immense. Tout le monde avait tellement espéré que Fourquet allait enfin sortir, mais Fourquet a dit non. Le commandant Cardeillac ne cache même pas son amertume.
Le vendredi 14 février au matin, il a neigé, le sol est recouvert de neige, les pins aussi. 13 jours qu'ils sont enfermés. Le procureur de la République et le bâtonnier des avocats de Bordeaux enregistrent un message d'apaisement et ils envoient un technicien de l'ORTF, Pierre Amorena, le faire écouter à Fourquet sur un magnétophone.
André Fourquet, il est du devoir de Monsieur le procureur de la République de vous inciter, dans l'intérêt de l'ordre public, de l'ordre social et de vos enfants, à vous livrer aux autorités judiciaires. J'ai d'ores et déjà pris contact avec Monsieur le procureur de la République pour que toutes les garanties habituelles des droits de la défense soient sauvegardées. L'avocat que vous aurez choisi vous assistera sous mon contrôle.
À sa sortie, le technicien de l'ORTF va voir les journalistes.
Est-ce que vous pensez qu'il serait capable encore de tuer ses enfants et de se tuer ?
Ben, je ne crois pas, parce que le petit était quand même assez près du père. Il est venu également à côté de moi, je l'ai caressé. Ils ont l'air très très gentils et vraiment, je ne crois pas.
Le lendemain, le siège tourne à la kermesse. On voit des journalistes saucissonner avec les gendarmes autour d'un brasero. Fourquet, avec un sens aigu de la communication, est sorti accrocher une banderole. Enfants très affamés, avertir services sociaux. À part ça, rien ne bouge. Et le lendemain dimanche, non plus. À un moment, le petit Francis sort chercher de l'eau et il dit au commandant
« Je mourirai plutôt que de partir avec vous !»
Un journaliste de Sud-Ouest, Gérard Méniaud, parvient à contourner les gendarmes et à ramper jusqu'à la ferme.
Fourquet ! Fourquet ! Hé, toi, qui es-tu ? Je suis journaliste. Je veux vous parler. J'ai pas d'armes, j'ai du papier, un stylo et un appareil photo. Bon, ça va. Viens, entre. Que veux-tu ? Hé, je veux que tu m'expliques.
Et Fourquet lui parle pendant une demi-heure.
Ma femme, elle a eu des amants. Elle me trompait. Elle allait dans les bois avec n'importe qui. Les gosses peuvent te le dire, hein. Ils étaient témoins. Et quand on s'est séparés, qu'est-ce qu'elle a fait la justice ? Elle a donné les gosses à ma femme.
Thank you. ce moment-là, les enfants sont assis devant la cheminée. Le journaliste leur demande. « Avec qui est-ce que vous voulez vivre ?»«
Je veux vivre avec papa. Moi aussi. »
Tous pensent maintenant que Fourquet ne se rendra jamais.
Fourquet ne se rendra jamais, il l'a dit. Cet après-midi, au lieutenant-colonel Gérard, qui de son half-track lui faisait de nouvelles sommations. Et sa petite fille, à son tour, a crié « Nous préférons mourir ».
Quand la nuit tombe ce dimanche soir, un officier dit au journaliste « Je vous donne ma parole d'officier, je vous préviendrai si on attaque ». Le matin du lundi 17 février, la pluie a cessé, il fait moins froid. Et c'est décidé, les gendarmes passent à l'action. À 8h moins le quart, deux half-tracks s'avancent. À l'intérieur, les hommes sont en tenue de combat. À 50 mètres de la ferme, le colonel lance les dernières sommations. Le journaliste d'Europe numéro 1, Guy Salignon, est avec lui.
Je suis à 40 mètres de la ferme. Tous les cas, un avion survole le paysage. Le colonel Gérard est dans le half-track au bout du chemin et il s'apprête à faire les recommandations, les sommations à Fourquet.
À 8h03, on entend deux coups de feu. Et immédiatement, le bruit des grenades lacrymogènes. Les gendarmes montent sur le toit, d'autres défoncent la porte. Ils entrent dans la maison. Et quelques secondes plus tard, ils ressortent un par un. Ils posent leurs armes, ils relèvent leurs lunettes de protection. Personne n'a entendu le troisième coup de feu. Fourquet a mis ses menaces à exécution. Il a tué les enfants d'une balle dans la tempe et il s'est tué lui-même. C'est un carnage.
On va encore tenter une dernière fois tout ce qui était possible de tenter. Essayez encore ce matin de raisonner Fourquet. J'ai l'impression qu'avant nous arrivions, avant nous soyons côté de la maison, il avait mis ces tristes menaces, ces horribles menaces à exécution.
Vous pensiez qu'il allait faire quand même?
Non, je ne sais pas, non, je ne pense pas, je ne pensais pas. Je pensais qu'il aimait trop ses enfants pour cela. Il devait leur accorder le droit de vivre.
Le lendemain, la presse se déchaîne. Paris Match titre, la loi n'a pas reculé, la mort non plus. Le Nouvel Observateur, les enfants de l'injustice. Et Minute parle d'un ordre imbécile venu d'en haut. Dans Le Monde, on débat de la garde des enfants en cas de divorce. La décision de confier les enfants à la mère était-elle la bonne? Et ce qui est très troublant, c'est la réaction de la mère le matin même sur Europe numéro 1. À peine émue. À peine.
Comment avez-vous appris la nouvelle?
Pour le poste maintenant, j'ai reçu à midi.
Pas avant midi?
Ah non, parce que j'étais mal fichu, j'étais au lit. Et j'ai attendu à 7h, puis à 7h, ils n'ont rien dit. 6h30, 7h.
Vous ne saviez pas que les gendarmes avaient donné l'assaut?
Ah non, j'avais pas. Je savais qu'ils devaient faire quelque chose de ce matin. C'est tout. Alors à midi, je me suis levée à 11h20, j'ai entendu à midi les informations de midi. Mais j'en sais pas plus. Attends, je vais me renseigner, je vais voir ce qu'il faut que je fasse.
Vous ne pensiez pas du tout que Fourquet pourrait se supprimer mais laisser en vie vos deux enfants?
Il avait dit qu'il voulait tuer les enfants et lui avec. Hein. Comme il avait dit au début, mettre le feu.
Pour vous, ça nous surprend absolument pas.
Ça surprend que les enfants, ils sont plus. Puis c'est tout.
Le mardi 20 février ont lieu les obsèques des deux enfants. Et au cimetière, c'est très tendu. Il y en a qui s'en prennent à la mère et qui crient « Justice ! Vengeance !» Il faut des policiers pour évacuer la mère. Le journaliste d'Europe numéro 1, Guy Salignon, fait son bilan intime.
Avant de quitter Cestas ce soir, il me reste au cœur un point indéfinissable. Après 8 jours vécus devant la maison de Fourquet, dans une atmosphère de contradiction, d'invraisemblance, d'incompréhension, alors que nous avions tous tenté de disséquer le personnage et ses problèmes, nous nous retrouvons devant un bilan tragique, 4 morts. Un gendarme, 2 gosses, Fourquet. Tout ici a été si moche, c'est le mot. Cestas, pour nous ce soir, c'est un chapitre sordide à bien des points, des morts inutiles, des gens qu'on ne voudrait plus imaginer vivant leur existence de tous les jours, et une fille de 15 ans qui a échappé au massacre pour rejoindre une mère qui ne sait pas pleurer.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.